Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux futures élections départementales dont le premier tour aura lieu dimanche 22 mars, dimanche prochain, et le second tour le dimanche 29 mars. C'est la troisième des cinq émissions spéciales que Radio Vassivière va consacrer à ces futures élections départementales, anciennes élections cantonales. Nous recevons aujourd'hui Agnès Guimau, principale de collège et ancienne conseillère municipale de Saint-Frion, et Jean-Luc Léger, conseiller général sortant, vice-président du conseil général, maire de Saint-Marc-à-Loubeau, vice-président du parc naturel régional de Mille Vaches et de la communauté de communes Creuse Grand Sud. Agnès Guimau et Jean-Luc Léger sont tous les deux candidats sur le canton de Felletin pour la majorité départementale qui rassemble le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Jean-Luc, bonjour.
Bonjour.
Agnès, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui.
Très bien.
Alors pour commencer, c'est difficile de ne pas évoquer les modifications qui ont touché ce scrutin maintenant départemental, anciennement cantonal. Élections de conseillers départementaux et non plus généraux, modification du calendrier électoral, canton redécoupé, mise en place d'un scrutin par binôme mixte, un renouvellement de tous les conseils départementaux en même temps contre un renouvellement par moitié tous les trois ans auparavant. On ne sait pas encore très clairement quelles seront les compétences et attributions des futurs conseillers départementaux. Comment on fait campagne avec tous ces changements ?
En rassurant, parce qu'en fait, cette réforme devait être une grande chose, et puis finalement, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Beaucoup de bruit pour rien, en fait. Alors bien sûr, le principal changement, je pense, dans la tête des électeurs, c'est ce canton redécoupé. Mais en réalité, pour les habitants, dans leur vie quotidienne, rien ne changera. Bien sûr que lorsqu'on habite, par exemple, Saint-Martin-Château, on peut être un petit peu déboussolé à être attaché au canton de Felletin, mais demain, les enfants de Saint-Martin-Château pourront encore aller, bien entendu, au collège de Bourganeuf, par exemple. Pour les communautés de communes, rien ne changera. Il y a trois communautés de communes qui sont sur ce nouveau canton. Eh bien, il n'y aura aucune modification. Par rapport aux compétences que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, les compétences, là aussi, on en a beaucoup parlé. En réalité, peu de choses changent, puisque nous savons déjà que la loi donc permet au conseil départemental de demain d'avoir la compétence sociale comme hier. Vous avez là déjà 60% du budget d'un conseil général. Vous avez aussi l'aide aux communes, qui continue. Vous rajoutez à peu près 15% du budget. Le tourisme encore, la culture encore, la vie associative encore, le sport encore. Là, vous aviez déjà presque 90%. Nous savons aussi que nous gardons les routes départementales. Nous savons que nous gardons les collèges. Il y a une énigme encore sur les transports scolaires. Mais finalement, les régions demain, même si elles ont le transport scolaire, elles pourront le rétrocéder au conseil départemental. Finalement, donc, beaucoup de bruit pour rien. Il y a un seul changement, c'est celui du développement économique qui sera transféré à la région, et peut-être même que dans un an et demi maintenant. Et voilà, finalement, le conseil général, vous le savez, hier, il avait très peu de compétences dans le domaine du développement économique. C'est le seul changement. Encore une fois, peu de changements.
Alors, il y a un changement important quand même, c'est le binôme, mais c'est l'homme et la femme, la parité. Ça, c'est un changement important, puisqu'il n'y avait que deux conseillères générales, elles seront 15 au lendemain du scrutin, et ça, c'est un changement important. Alors, on peut regretter que la parité ait été imposée, et qu'elle ne soit pas de mise, qu'elle ne soit pas naturelle du fait des compétences que les femmes puissent apporter. Je pense que toutes les femmes le regrettent. On force un petit peu les choses pour qu'elles évoluent plus vite. Jean-Luc le disait, 60% du budget est consacré au social. C'est aussi un nombre très important de femmes qui travaillent dans ce domaine d'activité. Donc il paraît bon qu'elles soient aussi représentées au niveau du département par 15 conseillères départementales.
Qu'est-ce que ça va changer pour vous, ce 50% hommes, 50% femmes au Conseil Général ? Est-ce que ça peut participer à ce qu'on pourrait appeler une sorte de renouvellement du personnel politique ?
C'est évident que ça va participer à ce renouvellement. C'est des femmes au niveau d'un conseil départemental, c'est une façon d'appréhender les problèmes qui est très différente. Et je le répète, le conseil départemental, c'est beaucoup de social. Et encore une fois, c'est une activité dans laquelle les femmes sont surreprésentées.
Par rapport à ça, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, notre binôme est celui à la fois de l'expérience, si vous voulez, puisque ça fait 10 ans que je suis conseiller général, et celui du renouveau que peut incarner Agnès. On tient absolument à ce binôme des compétences du passé.
je voudrais aborder un deuxième sujet, le redécoupage des cantons. Vous disiez que finalement, ça n'allait pas changer grand-chose. On a quand même des cantons qui sont plus étendus et par exemple, des communes comme Aurillères-de-Vassivière ne sont plus chefs-lieux de canton. Qu'est-ce que ça va changer quand même pour les habitants et surtout pour les futurs conseillers départementaux? Est-ce que ça ne peut pas nuire, entre guillemets, à la proximité entre le conseiller départemental et la population?
Grosso modo, ce nouveau canton, il est de la taille de deux cantons un peu plus. Donc, effectivement, superficie beaucoup plus grande. Mais il y aura deux conseillers départementaux sur ce territoire. Donc, finalement, en termes de proximité, vous savez, ça ne changera pas grand-chose. L'important demain, c'est que n'importe quel habitant de Saint-Martin-Château à Saint-Frion puisse appeler chaque jour son conseiller départemental s'il le souhaite, comme ça a été le cas sur l'ancien canton de Gensoux, de Royères ou de Feltin. Finalement, c'est ça qui est important. Et puis, nous avons déjà évoqué cela avec Agnès, avec Raymond et Mandy. Demain, si nous sommes élus, nous aurons recours aussi à nos suppléants. Nous avons tenu dans cette élection à être représentants de tous les secteurs de ce nouveau canton, de Royères jusqu'à Saint-Frion, justement, avec Raymond Rapteau, maire de Royères, et Mandy Mercier, conseillère municipale à Crozes. Donc demain, j'ai envie de dire, il y aura du travail pour tout le monde en termes de représentation, de travail sur les dossiers, et nous demanderons à nos suppléants, si nous sommes élus, de nous accompagner dans ce travail.
On va faire une petite parenthèse, on va parler de l'inévitable réforme territoriale. La Creuse sera le département le plus faiblement représenté avec 4 élus sur les 183 élus que comptera la future assemblée régionale de la grande région Aquitaine, Poitou, Charente-Limousin. Quelle place pour le département de la Creuse dans cette nouvelle grande région?
Alors, cette réforme territoriale qui crée la Grande Aquitaine n'est pas la réforme que nous souhaitions dans notre département. Beaucoup d'élus creusois auraient préféré, pour certains, une région massif central, peut-être avec l'Auvergne, sauf que voilà. Personne ne voulait de notre département juger toujours, vous savez, trop âgé, trop pauvre, etc. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui dans la Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, il faudra demain, effectivement, mettre tout son poids dans la balance pour se faire écouter de Bordeaux. Mais heureusement qu'on a gardé un conseil départemental. Je vous rappelle qu'il y a un an, le Premier ministre déclarait que les départements avaient vécu, qu'il n'y aurait plus de conseils généraux. On revient de loin. Heureusement, on a sauvé ça. Ça sera donc plus facile de dire, au nom de la Creuse, nous voulons ceci et cela, lorsque nous le dirons à Bordeaux. Et ça, nous le devons au mouvement des nouvelles ruralités. Hein. Nous avons sauvé le département grâce à cette dynamique.
On va en parler un petit peu plus tard des nouvelles ruralités. On va d'abord revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le département de la Creuse et son conseil général. Vous faites partie, en tout cas Jean-Luc, vous faites partie de la majorité sortante. Quel bilan vous dressez de votre action?
Ce bilan, il est notamment celui d'un bilan social, avec en particulier un domaine que je connais bien, celui de l'accompagnement des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en maison de retraite, les EHPAD, comme on les appelle autrement. C'est aussi l'accompagnement des personnes handicapées. Nous avons créé beaucoup de structures avec les associations pour les accueillir au mieux ou pour leur maintien à domicile. C'est accompagner les plus fragiles, c'est accompagner les jeunes qui aujourd'hui malheureusement souffrent tant du chômage. Donc le bilan, il est notamment social. Mais il n'est pas seulement social, ce sont des investissements routiers, pas très loin de chez nous, par exemple, passe l'ancienne nationale 141 qui nous a été léguée par l'État dans un état déplorable. Eh bien, nous avons investi plusieurs millions sur cette ex-nationale 141 entre Limoges et Clermont sur sa portion creusoise. C'est aussi un investissement touristique, c'est aussi un investissement sur l'Internet, même s'il faut toujours aller plus loin. Bref, finalement, le bilan du Conseil général sortant, c'est celui d'un Conseil général qui a été dynamique pour essayer d'être sur tous les fronts. C'est pas facile, mais nous avons essayé.
Ça c'est pour le passé, on va maintenant parler de l'avenir. Dans votre profession de foi, vous proposez de construire un autre modèle pour éviter une fracture territoriale entre les grandes métropoles et les campagnes. Comment ces intentions peuvent se traduire à l'échelle du département de la Creuse?
Alors très, très concrètement, montrer un nouveau modèle ici, c'est refuser la concentration toujours plus forte dans les métropoles de toutes les richesses, de tous les hommes, de toutes les activités. Je crois beaucoup que dans nos petites communes, nous devons développer de petites activités. Je ne crois pas beaucoup à l'implantation demain d'une usine de 100 personnes à Saint-Marc-à-Loubeau, pour n'en rien vous cacher. Par contre, je crois beaucoup qu'avec les élus, avec les acteurs locaux, avec les associations, nous pouvons créer de petites activités. Ben, je ne sais pas, prenons par exemple l'exemple de la société coopérative à Faux-la-Montagne, prenons l'exemple de la navette également à Faux-la-Montagne, voilà des petites activités qui ont créé, ben, par exemple pour la navette, 9 emplois. C'est bien la preuve qu'avec une volonté, même sur ces petites communes difficiles, nous pouvons créer de l'emploi, créer de l'activité. C'est ce modèle notamment que nous voulons défendre. C'est aussi celui d'un modèle où la vie associative et culturelle est très très importante et donc il faut la soutenir, il faut continuer à la soutenir. aider les agriculteurs autant que nous pouvons, développer les circuits courts notamment, mais là je passe la parole à Agnès pour qu'elle développe justement comment, grâce à l'alimentation dans les collèges, nous pouvons aider les agriculteurs via les circuits courts.
Alors c'est effectivement un axe très important au niveau des collèges Creusois, il y en a 18 en Creuse, où il y a des fortes incitations à développer ce système de circuit court, donc directement du consommateur, du producteur vers le consommateur. Et c'est aussi pour nous, principaux de collèges ou proviseurs de lycées, d'éduquer nos enfants et de leur délivrer des notions très citoyennes au travers de ce qu'ils vont trouver dans leur assiette et de bien communiquer sur ce qu'ils vont trouver dans leur assiette. Donc c'est effectivement des axes que l'on développe dans les collèges et pour lesquels le conseil départemental, conseil général, aide et vraiment impulse une dynamique nouvelle.
Et dans votre profession de foi, toujours pour parler de cette fracture territoriale possible, vous mettez également en avant les nouvelles ruralités. C'est quoi les nouvelles ruralités ?
Alors, les nouvelles ruralités, c'est un mouvement qui, au départ, a été porté par la Creuse, l'Allier, le Cher et la Nièvre, les conseils départementaux généraux, pardon, de ces quatre départements, avec quatre présidents, donc, qui voulaient défendre la ruralité. Aujourd'hui, le mouvement, je crois, a été rejoint par plus de 30 départements pour dire au niveau national, c'est-à-dire tout simplement aux instances nationales, écoutez, attention, dans ce pays, la richesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, va toujours au même endroit, c'est-à-dire dans les grandes métropoles. Attention, n'oubliez pas la ruralité. Dans la ruralité, dans nos campagnes, il y a des gens qui y vivent, des gens qui travaillent, des gens qui peut-être veulent changer de vie et veulent venir chez nous également. Ne les oubliez pas, ne laissez pas s'installer chez nous une fracture territoriale.
Il existe, enfin la majorité de la population habite en ville, il y a donc un ministère de la ville. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait créer un ministère des campagnes, de la ruralité ?
Oui. Alors je crois qu'une des ministres a dans son intitulé de ministère la ruralité. Hein, c'est Madame Pinel que nous avons rencontrée justement dans le cadre des nouvelles ruralités. Mais nous attendons plus. Nous aimerions bien que dans ce pays, on retrouve une véritable politique d'aménagement du territoire. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Si on laisse faire les choses, eh bien, le dynamisme va toujours là où il y a le plus de dynamisme, c'est-à-dire encore une fois dans nos grandes métropoles.
On va parler maintenant un peu de certaines compétences spécifiques au département, notamment l'aide sociale. La loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme, ouvrez les guillemets, chef de file en matière d'aide sociale qui concerne l'enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées, les aides sociales, la contribution à la résorption de la précarité énergétique. Quelles sont vos propositions pour les années à venir sur ces différents sujets ?
Alors c'est la loi de 2004 qui confère encore plus de prérogatives au Conseil général dans le domaine social. Tant mieux. Je crois vraiment que le département est le bon échelon pour traiter du social, relayé dans chaque UTAS, hein, unité donc d'action sociale qui se trouve à Bourganeuf, à Aubusson par exemple sur notre secteur. Alors nous avons fait beaucoup, notamment autour des personnes âgées, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées via la domotique dont tout le monde a entendu parler. Nous proposerons demain un nouveau pack domotique, une deuxième génération hein, qui permettra toujours de sécuriser au mieux ce maintien à domicile. Parce que le tout n'est pas de bien vieillir longtemps, le tout c'est de vieillir dans de bonnes conditions à domicile. Donc il faut permettre aux personnes âgées, parce que c'est leur souhait le plus cher, de rester chez elles et ensuite d'aller dans des EHPAD, des maisons de retraite qui elles aussi les assurent d'un accueil le plus pertinent possible, le plus humain possible. Et c'est pour ça que beaucoup d'EHPAD ont été restructurés, je pense par exemple à la maison de retraite de Royères.
Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce qu'est la domotique pour les gens qui ne le sauraient pas forcément ?
Oui, bien sûr. Alors la domotique, c'est très concrètement un pack domotique dans lequel vous avez notamment la téléassistance, c'est-à-dire que vous tombez, vous appuyez sur un bouton pressoir, beaucoup de personnes âgées en sont équipées dans notre secteur, et cela vous relaie à une plateforme donc, qui peut déclencher les secours presque immédiats. Hein. Voilà. C'est aussi un détecteur de fumée, c'est un chemin lumineux. Par exemple, lorsque vous posez pied par terre au pied de votre lit la nuit, que vous êtes peut-être un peu déboussolé parce que les somnifères, parce que le sommeil, parce que ceci, cela, eh bien la lumière s'allume automatiquement jusqu'au WC. Et on s'est aperçu ainsi qu'on évitait beaucoup de chutes. Hein. Donc évidemment, pour la personne, c'est un confort, je dis là une évidence. Et puis la sécurité sociale s'est aperçue qu'ainsi, elle faisait elle aussi des économies. Et c'est pour ça que ce type d'initiative née dans la Creuse, demain, sera reprise pour l'ensemble du territoire national dans le cadre de la loi sur la dépendance.
Vous parlez de la sécurité sociale, ça me facilite la transition. On décrit souvent la Creuse comme étant soit un futur, soit déjà un désert médical. Quel constat vous faites concernant la situation de l'accès aux soins en général en Creuse et quel remède peut-on y apporter ?
Et oui, bien sûr, beaucoup de médecins ne souhaitent pas venir s'installer dans notre département. Pour autant, rien n'est fichu. La preuve, si j'en crois ce que je regarde par exemple à Royères ou à Faux-la-Montagne ou à Felta, il y a des médecins, notamment grâce aux maisons de santé pluridisciplinaires. Demain, une maison de santé pluridisciplinaire supplémentaire va se monter à Vallières. Ce n'est peut-être pas une solution miraculeuse, car on connaît des maisons de santé pluridisciplinaires qui peuvent rester vides, mais s'il y a un projet d'entente entre les professionnels de santé, on s'est aperçu que cela pouvait non seulement permettre de maintenir ces professionnels de santé, mais également d'en accueillir de nouveaux. Voilà, c'est une des solutions. La nouveauté, c'est que jusqu'ici, le Conseil général n'allait pas sur l'investissement sur ces maisons de santé pluridisciplinaires. Eh bien, ça y est, le Conseil général a décidé d'aller sur cet investissement aux côtés de la région.
Et comment est-ce qu'on peut rendre le territoire, entre guillemets, attractif pour des jeunes médecins, pour les attirer en Creuse en général, et plus particulièrement dans le sud de la Creuse, Agnès ?
En leur proposant un lieu de vie qui est quand même extrêmement agréable. Certains disent, les médecins finalement ne viennent pas sur notre territoire parce que leurs conjointes vont s'y ennuyer, parce que culturellement, elles ne vont pas trouver d'activité. C'est vrai qu'on ça nous agace, ce genre de remarques, parce que d'un point de vue culturel, on a au contraire un département qui est très très riche. Alors je vais parler par exemple de la scène nationale, parce qu'on a la chance d'avoir une scène nationale. Certes, ça n'est pas notre canton,
à Aubusson.
Ça paraît tout de même, enfin, pour une petite ville comme Aubusson, d'avoir une scène nationale, c'est quelque chose d'extraordinaire, avec une programmation qui est de grande qualité. Il y a des concerts de grande qualité également. On a sur l'ensemble du département, d'un point de vue culturel, des possibilités, et ça n'est en aucun cas une raison qui pourrait expliquer le manque d'envie pour des médecins de s'installer. On a une qualité de vie en Creuse qui est remarquable. Si ces médecins ont des enfants, on a... Alors, je suis principale de collège, donc voilà, 18 collèges qui évitent aux enfants d'avoir des trajets trop longs. Des collèges qui sont de petites structures où il fait bon apprendre. Ça paraît également être un argument pour des familles, pour s'installer, également des familles de médecins.
C'est-à-dire qu'il faut essayer de changer un peu l'image de la Creuse, enfin, c'est ce que je comprends ?
Très probablement. On fait beaucoup de choses et peut-être qu'on ne parle pas assez de ce que l'on fait, oui.
Jean-Luc ?
Et puisqu'on parle de l'image de la Creuse, vous voyez, grâce à la domotique, le maintien à domicile dont je parlais tout à l'heure, on vient nous voir. Moi, j'ai reçu beaucoup de délégations ces dernières années, d'autres conseils généraux de toute la France qui viennent voir comment on fait en faveur des personnes âgées. Eh bien, ça fait du bien de recevoir des gens, y compris des journalistes ou des élus, qui viennent voir ce qui se passe en Creuse. Non pas pour se moquer ou dévaloriser notre département, on n'a pas besoin de ça, mais qui, au contraire, s'inspirent de ce que nous faisons. Eh bien, c'est très bien. Voilà une bonne image que nous redonnons ensuite dans l'ensemble du pays.
Je voudrais qu'on aborde maintenant un peu le problème de la mobilité en général, et on va d'abord parler de la mobilité de proximité. On peut faire le constat que ce n'est pas simple de se déplacer en Creuse en général, et par exemple si on prend le trajet Royères-Feltin qui sont maintenant sur le même canton, il n'y a pas ou très peu de transports en commun, et c'est une vraie problématique. Comment vous pourriez améliorer cette situation ?
Alors, on ne part pas de rien quand même, parce que, bah, par exemple, le Conseil général finance le transport à la demande, qui souvent est organisé par les communautés de communes. Donc, vous voyez, on ne part pas de rien. Ensuite,
est-ce que
il y a toute une réflexion.
Ce qu'est le transport à la demande ?
Oui, alors une personne veut se déplacer, par exemple, pour aller au marché. Je vais vous parler de quelque chose que je connais bien. Sur l'ancienne communauté de communes du plateau de Gensiou, nous avions mis la possibilité d'aller donc sur les marchés de Dimoutier et de Feltin. Voilà, à un coût extrêmement modique, en particulier pour des personnes isolées ou des personnes âgées. Voilà par exemple ce qu'est le transport à la demande. Donc on ne part pas de rien, mais en ce moment, il y a toute une réflexion, et d'ailleurs nous sommes ici à Royères, et bien c'est à Royères qu'ont eu lieu les ateliers, il y a toute une réflexion qui est engagée par le parc naturel régional pour au sujet de cette mobilité de proximité. Les communautés de communes, je le sais, en tout cas celles de Creuse Grand Sud, engagent en même temps également une réflexion sur ce nouveau territoire de la nouvelle communauté de communes qui résulte de la fusion des anciennes du plateau de Gensiou et d'Aubusson-Feltin, plus deux ou trois communes. Voyez donc, oui, c'est un problème, la mobilité. Je pense par exemple aux plus âgés. Je pense par exemple aux jeunes qui n'ont pas de moyens de locomotion pour aller chercher un apprentissage, pour aller chercher une formation, pour aller tout simplement au travail. Il faut améliorer les choses, mais nous nous y attelons.
pour terminer sur le transport à la demande, c'est-à-dire que c'est des taxis dont le prix est, enfin dont une partie du tarif est pris en charge par le conseil départemental.
C'est tout à fait.
Anciennement
ça.
Général et futur conseil départemental.
Complètement.
On va rester dans la mobilité plus générale cette fois, la mobilité nationale. Il y a un sujet qui est très clivant, c'est d'un côté les gens qui sont plutôt pour la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges, d'autres qui préfèrent défendre la ligne anciennement Corail, maintenant Intercité, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Récemment, la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges a été déclarée d'utilité publique. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre position par rapport à la ligne à grande vitesse et la ligne POLT Poitiers-Orléans-Limoges-Toulouse ?
En tant que conseiller général sortant, ma position elle est très claire. J'ai voté avec les autres conseillers généraux donc un recours au Conseil d'État contre l'étude de la future ligne LGV entre Limoges et Poitiers. Nous défendons la ligne historique, donc Paris-Orléans, la souterraine Limoges-Toulouse. C'est la ligne des Creusois. Hein. Et si on ne veut pas d'une fracture encore plus, hein, il faut la financer, cette ligne, il faut la moderniser, c'est notre ligne, nous sommes sur ce créneau-là.
Simplement pour préciser, on peut quand même faire aujourd'hui la souterraine Paris en 2h40. Hein. Donc c'est quand même un temps tout à fait raisonnable, ce qui sur les autres projets n'aurait plus été le cas. C'est-à-dire qu'on éloignait encore davantage la Creuse de la capitale.
Et vous le dites, vous avez voté un recours. C'est quoi les atouts de cette ligne Poitiers-Orléans-Limoges-Toulouse ?
C'est la ligne qui dessert le Limousin. J'en connais pas d'autres qui puissent mieux la desservir, tout simplement. Soit pour aller ou revenir de Paris, mais je n'oublie pas non plus tous ceux qui ont envie d'aller à Toulouse ou de traverser notre pays de Toulouse à Paris par le Limousin. C'est vraiment une des lignes principales, peut-être même la ligne principale pour les Limousins, pour les Creusois en particulier, et c'est pour ça que nous la défendons. Il est hors de question que tout l'argent de la SNCF soit siphonné demain sur la ligne LGV. En plus, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il paraît qu'il y a très peu de lignes LGV qui sont rentables dans notre pays. Alors pourquoi continuer sur cette logique-là qui, encore une fois, ne fait que renforcer les métropoles ? Alors attention, hein, moi je ne joue pas les métropoles contre les campagnes. Limoges a le droit de se développer, bien entendu. On a plutôt intérêt à avoir une locomotive régionale plutôt qu'autre chose. Mais je dis, n'oublions pas, les arrière-pays ruraux, ils ont leur mot à dire. Il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui payent leurs impôts, et donc il faut tenir compte de nous, hein, tout simplement, nous les habitants de petites communes.
On a clairement compris votre position, en tout cas en ce qui concerne la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. On va parler d'un autre sujet clivant, c'est le projet de cette ferme des 1000, et on dit maintenant 1400 veaux sur la commune de Saint-Martial-le-Vieux. Quelle position vous avez sur ce projet ? Comment vous le sentez, dirais-je ?
Je suis partagé. Je suis partagé, je me pose des questions, je rencontre les uns, je rencontre les autres. En tant que vice-président du parc, j'ai reçu aux côtés du président et des autres élus donc les partisans et les opposants à ce projet. Alors, comme je suis partagé, j'essaie de faire la part des choses entre les vrais arguments et les caricatures que l'on peut dresser ici et là.
Alors, faisons d'abord les vrais arguments, ensuite on fera les caricatures.
Alors, si vous voulez, parfois je fonctionne de façon binaire, les plus, les moins. Ça fait 30 ans que j'entends dire que ce serait bien que dans notre département, et en Limousin en règle générale, nous puissions engraisser sur place donc nos bêtes pour apporter de la valeur ajoutée enfin à nos bêtes qui sinon partent en Italie se faire engraisser. Donc je dis là il y a un atout assurément à ce projet. Après, j'entends d'autres qui disent « Attention, c'est peut-être pas le modèle d'agriculture que nous souhaiterions développer. Peut-être y aurait-il des impacts environnementaux. » Une amie, professeure de sciences, me dit « Attention, peut-être va-t-on concentrer ici une certaine catégorie, une certaine pression en termes d'antibiotiques, hein, voilà, et qu'il peut y avoir des rejets. » En même temps, moi, je vois quoi ? Je vois quand même un projet qui a été soumis à un cahier des charges au niveau environnemental drastique, c'est-à-dire qu'il y aura là un respect de normes qui ne s'est pas toujours imposé ailleurs sur d'autres projets. Donc vous voyez, je suis partagé, mais quand même, je me dis une chose quand même, ces agriculteurs qui mettent de l'argent, ils ne sont pas idiots quand même, c'est bien peut-être qu'ils y ont trouvé un intérêt et qu'ils pensent que sur place, on peut engraisser enfin nos bêtes. Voilà, je suis partagé. Je vois Jean Rosé arriver dans cette affaire, mais là encore, je me dis quand même que les agriculteurs, je les ai rencontrés, ont signé donc, ou sont en voie de signer donc un accord avec la maison Jean Rosé sur une garantie de prix minimum d'achat. Voilà, par contre, je vais vous dire une chose, hein. Moi, je suis prêt à entendre tous les arguments. Mais par contre, ce que je veux pas sur cette affaire, pas plus que d'autres, que ce soit de l'extérieur qu'on vient de nous dire comment il faut faire chez nous. Alors attention, là, c'est pas, il en est hors de question. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir 30 personnes de l'extrême droite tenir une conférence de presse cet hiver à Saint-Martial-le-Vieux. Ça, je peux vous dire que ça m'a fait très mal de voir un philosophe d'extrême droite accompagné d'un élu d'extrême droite contre ce projet. Je sais pas, j'aime trop le plateau pour voir ces gens-là défiler.
Alors, on a bien... Oui, allez-y, Agnès.
De façon objective, on peut peut-être aussi faire le point sur ce qui se pratique actuellement dans l'agriculture en Creuse. Donc, je suis femme d'un exploitant agricole qui élève effectivement des broutards et qui voit partir ses bêtes chaque année vers l'Italie ou l'Espagne. Donc, dans des convois où on peut s'inquiéter de la maltraitance animale, hein. C'est pas rien d'amener des veaux en Italie ou en Espagne et qui vont être engraissés. Alors là, pour le coup, avec des méthodes qui sont des méthodes très certainement industrielles. Et ces broutards, une fois engraissés, reviennent finalement sur le territoire national français pour être consommés. Donc deuxième voyage pour ces animaux. Donc que des agriculteurs se soient rassemblés en se demandant comment on pouvait éviter ce genre de transport et d'engraissement à l'extérieur, ça paraît effectivement une interrogation tout à fait normale et naturelle. Après, effectivement, il faut voir le projet tel qu'il est conçu aujourd'hui.
À voir donc. Pour parler d'autre chose, on va parler d'économie de manière générale. L'État veut faire des économies dans ce sens-là, je veux dire économie. Et pour ça, il réduit ses dotations territoriales. Le futur conseil départemental devra-t-il lui aussi faire des économies? Et si oui, sur quoi?
Alors, vous savez, les conseils généraux, en particulier en milieu rural, reçoivent depuis quelques années moins de dotations qu'avant. Et a priori, effectivement, les dotations d'État pourraient être réduites à l'avenir. Donc, nous avons tenu compte de ça. Pourquoi ? Nous ne voulons pas avoir trop recours à l'emprunt. Nous ne voulons pas que nos enfants payent nos dettes d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas augmenter les impôts parce que la pression fiscale est suffisante. Il faut arrêter. Les gens n'en peuvent plus, sinon, surtout dans nos zones comme celle de la Creuse. La solution est donc effectivement de faire des choix. De faire des choix d'économie, ne pas augmenter le personnel, par exemple. C'est un choix que nous avons fait et nous nous engageons demain à le continuer, si nous sommes encore demain aux affaires dans le département. Nous faisons des choix, nous ne voulons pas faire d'économie sur le dos des personnes âgées et handicapées. Donc demain, nous ne ferons pas d'économie sur ces personnes-là, notamment pour le maintien à domicile. Ça veut dire quoi ? Puisque nous sommes responsables, ça veut dire qu'effectivement, nous ne faisons pas tous les investissements routiers, par exemple, que nous voudrions faire. Par exemple, pendant plusieurs années, nous avions un investissement routier à hauteur d'environ 17 millions d'euros. Nous l'avons baissé à 14 millions. Oh oui, les 3 millions qui nous manquent nous feraient bien besoin, évidemment. Mais voilà, on ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix. En tout cas, nous ne voulons pas assommer, j'ai envie de dire, le contribuable. Nous ne voulons pas lui raconter n'importe quoi. Nous ne voulons pas promettre de miracles. Nous ne pouvons promettre que ce que nous sommes sûrs de tenir demain.
On arrive à la fin de cette demi-heure. Je vais vous poser une dernière question. Je vous demanderai de répondre assez rapidement puisqu'on nous touche vraiment à la fin de l'émission. Vous proposez dans votre profession de foi de renforcer les filières du lycée des métiers du bâtiment de Felletin et un soutien au label Campus des métiers. Est-ce que vous pouvez préciser assez rapidement ce qu'est cette proposition ?
Le lycée des métiers du bâtiment, c'est vraiment une école très emblématique au niveau de Felletin. C'est une école qui a beaucoup souffert hein, lorsque la Camba s'est retirée, lorsque la région l'a reprise. C'est une école qui est en train d'impulser une nouvelle dynamique, notamment par ce label campus. Mais c'est surtout comment allier des métiers ancestraux très emblématiques, tels que la taille de pierre avec des techniques et des matériaux nouveaux qui seront très soucieux de l'environnement. Donc c'est vraiment cette impulsion-là qu'il faut accompagner. Et Pierre Caravano, le proviseur du LMB, peut être assuré, si nous étions élus, peut être assuré de notre soutien et de notre envie de...
Jean-Luc Léger, en conclusion.
Oui, un des grands challenges de demain pour la Creuse comme pour l'ensemble des nations, c'est la transition énergétique. Et justement, à notre petite échelle, à celui du LMB, eh bien, il peut participer à ce challenge avec donc de nouvelles filières sur les écomatériaux. Voilà. Et si vous me proposez de conclure, je dirais tout simplement qu'on a cette région au cœur, aux tripes même, et qu'on a envie. On a envie de continuer à défendre notre plateau. Voilà, de Saint-Martin-Château en passant par Saint-Marc-à-Loubeau jusqu'à Saint-Frion, on a envie. Et nous proposons donc aux électeurs, bien entendu, de nous accompagner, pas tellement pour nous, mais pour eux, pour être au service demain de tout le monde.
Nous arrivons maintenant à la fin de cette émission spéciale consacrée aux futures élections départementales et plus spécialement au canton de Felletin. Nous recevions Agnès Guillemot et Jean-Luc Léger, tous deux candidats sur le canton de Felletin, bien évidemment, pour la majorité départementale qui rassemble le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Merci à vous de vous être déplacés dans nos studios.
Merci.
Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Vassivière. Bye bye.